Alors bonjour à tous, je suis un peu enrhumé, d'accord? Donc si par moment mes M ressemblent à des B, voilà, ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Je veux encore un tout petit peu prier pour nous, parce que j'ai l'habitude de dire que quand il y a un prédicateur qui prêche, il faut toujours que l'assemblée fasse preuve de discernement spirituel, que ce soit un prédicateur régulier ou que ce soit quelqu'un qui vienne. Donc on va simplement aussi prier dans ce sens-là. Père, nous voulons écouter ta parole, nous t'avons adoré, nous t'avons loué en faisant monter vers toi nos louanges et nos prières. Et nous croyons que c'est aussi une manière de t'adorer que d'écouter ce que tu nous as laissé comme témoignage dans ta parole. Et ce matin, alors que je porte un message, je prie pour que cette assemblée que tu as établie ici à Clermont-Ferrand aujourd'hui, eh bien, je prie que tu donne à chacun du discernement spirituel, de manière à juger si ce qui sera enseigné est conforme à ta parole. Et Seigneur, si ce qui est enseigné est véritablement conforme à ta parole, alors que ça ne soit pas quelque chose que nous entendions et que nous oublions, mais que ça vienne provoquer un changement ou un mouvement en nous. Merci de parler à nos cœurs et que ce matin, encore dans la poursuite de ce culte, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La venue du Saint-Esprit sous quatre signes, je vais être très franc avec vous, je n'ai pas écrit ce message en premier lieu pour vous. Il a été écrit pour l'église baptiste de Saint-Étienne lors de la Pentecôte. Et puis voilà, là il fallait ici pouvoir apporter un message, le temps était court. Et j'avais été touché par ce message que moi-même j'avais été écrit. Et donc du coup, je voulais vous le partager. Et pour commencer, je vous emmène avec moi dans une galerie d'art. Une galerie d'art un peu particulière parce que dedans, il y a une fresque immense. Et dans cette fresque, à chaque fois, il y a des tableaux qui dépeignent des situations qui peuvent être assez intéressantes. Le premier tableau que nous voyons ici, c'est une scène dans le désert. On y voit un peuple en détresse qui souffre sous les coups de fouet, puis dessiné dans le ciel, il y a comme une main qui semble venir du ciel divine qui est dessinée. Et puis il y a un titre en dessous, le titre de l'œuvre, Je délivrerai mon peuple de l'esclavage en Égypte. Puis la fresque continue et elle met en scène maintenant ce même peuple qui traverse une mer qui s'est ouverte en deux, puis qui s'est refermée sur leurs oppresseurs. Et le titre de cette œuvre, on le voit un peu moins ici, c'est Je protégerai mon peuple. On continue cette fresque. Un autre tableau apparaît. Ici, c'est intrigant. On y observe comme s'il y avait du pain qui était en train de descendre du ciel. Et autour de ce pain, il y a toujours ce même peuple qui est là, les bras en l'air, tout joyeux, parce qu'ils ont de quoi se nourrir. Le titre de cette œuvre, Je nourrirai mon peuple. Poursuit. On arrive maintenant face à une grande muraille, et là il y a de la musique, pardon, et une puissante trompette de laquelle sort un hymne, un chant dans lequel il dit « Jéricho est tombé, nous sommes chez nous. Je te donnerai un pays. » On arrive ensuite à une succession d'images qui peuvent nous interpeller, dans lesquelles on observe un homme qui donne la vue à des aveugles, qui ressuscite des morts, qui nourrit des affamés. Je montrerai mon royaume. Puis on arrive à une fresque, à la fois lumineuse et en même temps particulièrement triste. Cet homme ici qui était en train de nourrir les foules est là, comme cloué sur une croix. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il semble porter sur lui quelque chose de sale, de moche, comme une souillure, mais comme si ça ne lui appartenait pas pour autant. Les mains de cet homme sont à la fois clouées sur cette croix. Et en même temps, la perspective de ce tableau nous donne l'impression que c'est comme si, tout en étant cloué sur cette croix, il nous invitait à venir l'enlacer, comme s'il était prêt à nous enlacer. Le titre de cette œuvre, Je pardonnerai leur faute. Puis, c'est une fresque qui continue, et puis à un moment, on arrive à un tableau qui porte le titre Je les équiperai. Et ce que je vous propose qu'on puisse voir ensemble ce matin, eh bien, c'est ce tableau ici. Ce tableau qui, pour moi, dépeint celui de la Pentecôte, ce moment où le Saint-Esprit est envoyé sur les disciples, ce moment où Dieu choisit d'équiper son peuple. Je vous donne quelques éléments de contexte avant de lire le texte avec vous. Dans le chapitre qui précède ce que nous allons lire, Jésus vient de ressusciter, et il s'adresse alors à ses disciples en leur disant de ne pas s'éparpiller, restez bien groupés là, ici, à Jérusalem, car vous devez recevoir le Saint-Esprit qui vous a été promis. Jésus leur explique que la réception du Saint-Esprit sera alors la condition indispensable pour qu'ils puissent accomplir la mission que Dieu veut leur confier. Et nous en arrivons alors à ce moment particulier où les disciples obéissent à Jésus et ils restent à Jérusalem. Et voici ce qu'il se passe. C'est ce que nous allons lire, ça va s'afficher en haut aussi, c'est dans mes diapos. Je voudrais simplement dire que l'arrivée du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la vie du disciple, est le signe, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, de quatre vérités. Un signe de confiance, un signe de mission, un signe d'affection et un signe d'opposition. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ce passage, ici, c'est l'accomplissement merveilleux d'une grande promesse que Dieu avait faite à son peuple. En effet, avant l'arrivée de Jésus, Dieu avait dit par l'intermédiaire de différents prophètes, et notamment par le prophète Joël, qu'il allait répandre son esprit sur tous les membres du peuple saint. Puis Jésus aussi, dans son ministère, a dit la même chose à ses disciples. Il leur a expliqué qu'après son départ, lorsqu'il ne serait plus avec eux, il recevrait le Saint-Esprit qui avait été promis. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme étant à l'œuvre bien avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit est éternel, il était même présent, il planait au-dessus de la création lorsque Dieu a fondé le monde, à la fondation du monde. Puis ensuite, dans l'histoire, notamment dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu le Saint-Esprit qui reposait et qui équipait certaines personnes dans le peuple pour accomplir un certain nombre de tâches. C'était le cas notamment pour les rois, de manière à ce qu'ils puissent exercer la royauté parmi le peuple de Dieu. Ils recevaient l'onction du Saint-Esprit. Et puis on a vu que c'était le cas aussi pour les prophètes qui, pour partager les oracles qu'ils recevaient ou la parole de Dieu, eh bien, ils étaient équipés du Saint-Esprit de manière particulière ici parmi le peuple de Dieu. Et cette action du Saint-Esprit était tellement forte, tellement flagrante, que Moïse lui-même, lorsqu'il a observé ce que le Saint-Esprit était capable de faire dans la vie de ceux qui le recevaient, eh bien, ça l'a poussé dans le livre des Nombres à faire une prière. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que Moïse, au moment où il formule cette prière, n'a aucune idée qu'à ce moment-là, il est en train de faire une prière prophétique. Dans Nombres, chapitre 11, verset 29, voici la prière que Moïse fait. « Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » La prière que Moïse fait. Il voit le Saint-Esprit qui agit dans la vie de certains de responsables du peuple de Dieu. Il se dit, mais si seulement ça pouvait se propager à tout le peuple. Et justement, c'est exactement le projet que Dieu avait annoncé bien des années avant la Pentecôte. Et par l'intermédiaire du prophète Joël, Dieu annonce publiquement son projet. Il n'est plus caché et il en fait même, non pas juste un projet qu'il veut faire, mais une promesse. C'est-à-dire, quand Dieu fait une promesse, ça veut dire qu'il s'engage lui-même pour la réalisation de cette promesse, si c'est lui qui dépend la réalisation de cette promesse. Il s'engage, il engage son propre nom, il engage sa propre réputation pour que cette parole puisse s'accomplir. Pour le rafraîchissement des mémoires, je vais simplement relire quelques versets de Joël 3. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, pardon. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ce jour-là, je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. À partir de ce moment, à partir de la réalisation de cette promesse, cela veut donc dire que tous ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés, mais ils ne seront pas juste sauvés, ils seront sauvés et ils recevront eux aussi le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a été dispensé, qui a reposé sur les rois, sur les prophètes, va équiper chacun de ceux qui appelleront le Seigneur pour le sauver, de manière à ce qu'eux aussi soient équipés pour être des témoins et faire l'œuvre de Dieu là où il les a placés. Ce matin, je voudrais mettre en évidence une vérité que je trouve formidable sur notre Dieu, la réalisation de la prophétie, l'accomplissement merveilleux de cette promesse doit étayer ce matin et fonder sur le roc la confiance que nous pouvons avoir en notre Dieu. Il ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il annonce s'accomplit ou s'accomplira. Il ne ment pas. Et si l'accomplissement de la Pentecôte avec la réception du Saint-Esprit ne suffit pas ce matin à simplement vous dire « Oui, c'est vrai que je peux faire confiance à ce Dieu qui a annoncé des siècles avant que le Saint-Esprit allait se répandre », je t'invite simplement à te rappeler de tout ce que l'on a vu en introduction de ce message. Tous ces tableaux où nous avons vu, même si je ne l'avais pas encore dit, que c'est Dieu qui a agi de la manière dont il s'est engagé envers son peuple. Il n'a pas menti. Au travers de l'histoire, notre Dieu a montré sa fidélité. La Bible témoigne que notre Dieu s'est engagé à délivrer son peuple de l'esclavage. Il l'a fait. Il l'a fait au temps égyptien. Et en fait, il ne l'a pas fait qu'à ce moment-là. Il continue de le faire aujourd'hui à chaque fois qu'il libère l'un de nous de l'esclavage de Satan et du péché. Il l'a fait, il le fait et il continuera de le faire. Il a promis de protéger son peuple et il l'a fait. Encore aujourd'hui, il continue de te protéger au point que la Bible nous dit que plus rien ne pourra jamais t'arracher à l'amour que Dieu a manifesté pour toi en Jésus-Christ. Dieu a promis à son peuple un pays et il lui a donné. Encore aujourd'hui, la Bible nous montre que pour nous aussi, il continue de nous promettre une terre promise dans l'éternité à ses côtés. Dieu a promis que son Saint-Esprit serait déversé sur tout son peuple et à la Pentecôte, c'est véritablement ce qu'il a fait. Ainsi, si tu fais partie du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors son esprit repose sur toi et en toi. Tu peux, choisis ce que tu veux, avoir confiance en ton Dieu. Ses actes ont démontré sa fidélité au travers de l'histoire, l'accomplissement de ses promesses. C'est peut-être un temps maintenant, ce matin, de renouveler la confiance que nous pouvons avoir en notre Dieu. Et peut-être que certains d'entre nous, à cause de circonstances de la vie, ont perdu confiance en notre Dieu. Ici, nous avons des preuves, en mon sens, historiques, qui montrent que Dieu est fiable. Alors, c'est un moment où nous pouvons reconnaître humblement devant lui que bien souvent, nous avons du mal à lui faire confiance. Reconnaissons-le humblement devant lui et appelons-le au secours. Je vous propose qu'on continue. Or, à ce moment-là, on continue le texte de la Pentecôte, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et ils disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle ? » Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. La Pentecôte, c'est par excellence un moment, un événement à haute teneur en miraculeux. La réception du Saint-Esprit se fait à la fois visuellement au travers de flammèches qui ressemblent à des flammes qui viennent se poser sur eux, mais aussi au niveau de l'audition, parce qu'ils entendent ici un bruit énorme, il y a une sorte de vacarme qui est faite. Et on voit que les disciples, poussés par le Saint-Esprit, se mettent à parler et à proclamer la gloire de Dieu. Mais ce qui est particulier, et vous l'avez très certainement remarqué, c'est que chacun le fait dans une langue différente, et plutôt, chacun le fait dans une langue que lui ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. C'est là le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ce moment particulier. Et il se trouve que, justement, par hasard, vraiment par hasard, se trouve à Jérusalem, en ce moment particulier, des Juifs venus de tous les peuples du monde. Le texte biblique insiste, de tous les peuples du monde. Ils entendent un grand bruit et alors ils accourent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la Bible nous montre que ce qui a stupéfait les personnes qui étaient là, ce n'est pas qu'il y ait un gros bruit, c'est que quand ils arrivent face à ces Galiléens, ils sont en train de parler des langues qu'ils ne sont pas censés connaître ou parler. Il y a un youtubeur que j'apprécie, que j'écoute, je ne me rappelle jamais de son nom, donc désolé si je lui fais offense, et c'est un Américain qui est parfaitement sinophone, c'est-à-dire qu'il maîtrise le cantonais et le mandarin, et l'une de ses passions pour ses vidéos, en tout cas ce qui fait qu'il est connu, eh bien, c'est qu'il se rend dans toutes les grandes villes du monde anglophone en général, et dans lesquelles il y a des quartiers chinois. Vous savez, les quartiers qui sont tellement chinois que les devantures des magasins ne sont pas en anglais, mais toujours avec les sinogrammes. Et donc, ce qu'il fait, naturellement, il rentre dans un restaurant ou dans un magasin, et puis là, comme tout touriste, il commence à poser des questions en anglais. Puis une fois qu'il a commencé à poser ses questions, à se faire passer pour un simple touriste, il parle ensuite, ou il prend sa commande avec un cantonais ou un mandarin excellent. Et à chaque fois, la réaction est toujours la même, et je trouve ça assez hilarant, c'est de voir la manière dont tout le restaurant s'arrête et se retourne et regarde quoi, un Américain blanc comme ça, qui parle si bien notre langue, que ce soit le serveur, les clients, le chef, à chaque fois ils sont là, ils se retournent, ils disent « mais c'est pas normal ». C'est pas normal qu'un Américain ici, de cette manière, parle si bien notre langue, la mienne. Pourquoi est-ce que c'est ce qui se passe? Et finalement, à la Pentecôte, d'une manière bien plus glorieuse, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui arrivent ici de tous les peuples, ils arrivent devant des gens qui ne sont pas censés connaître leur langue et ils entendent qu'ils parlent de Dieu dans une langue qui leur est totalement étrangère, mais par contre qui pour eux vient les rejoindre directement. Ici, à la Pentecôte, la multiplicité de ces langues ne servent plus maintenant à disperser les hommes loin de Dieu, mais bien au contraire, diverses langues qui se mettent à proclamer le même message de la gloire de Dieu, compréhensible maintenant par chacun, afin que chacun puisse l'entendre et avoir la possibilité de recevoir cet évangile de grâce et d'être sauvé. Le déversement du Saint-Esprit est donc, en mon sens, un signe pour la mission. Dieu, le jour de la Pentecôte, a amené des gens de tout le monde autour des apôtres pour qu'ils entendent la gloire de Dieu. Maintenant, à la suite de la Pentecôte, le mouvement est un peu différent. Dieu nous envoie dans le monde entier. Pourquoi faire ? Pour proclamer exactement le même message de la gloire de Dieu qui a été proclamé à la Pentecôte. Et donc, la Pentecôte, le moment où nous recevons le Saint-Esprit en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, c'est un signe pour la mission que Dieu est en train de nous équiper pour nous envoyer en mission. Certains d'entre vous seront peut-être envoyés, comme c'est le cas ici des Astorga, à l'autre bout du monde sur un bateau pour témoigner quelque part. D'autres, peut-être, c'est un autre coin de France Peut-être que pour toi ou pour toi, ça ne sera pas ailleurs qu'ici, mais simplement dans ton travail, dans ta famille, dans ton école, dans ton sport, dans ton activité. Et puis d'autres encore seront amenés à être envoyés en mission sans sortir de chez eux, simplement sur TikTok, sur YouTube, sur Discord, sur Instagram ou ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu nous équipe pour nous envoyer. Qu'importe le lieu où nous sommes envoyés, finalement, ce n'est pas l'important. L'important, ce n'est pas le lieu où nous allons, mais c'est ce que nous sommes et ce que nous incarnons. Grâce au déversement du Saint-Esprit, tout chrétien a reçu l'Esprit de Dieu pour témoigner de l'Évangile de grâce là où Dieu le place. Les apôtres, c'était ici, à Jérusalem, pour un temps, et ensuite, ils ont été envoyés ailleurs. Mais là où ils étaient, ils ont simplement partagé la gloire de Dieu. Je suis d'accord que pour certains, formuler la présentation de l'Évangile, le témoignage, eh bien, ça peut être une difficulté, ce n'est pas forcément facile à faire. Et je crois que c'est là où l'Église locale a son travail aussi, d'accompagner, de former les disciples, non pas pour qu'ils soient capables de réciter la Bible partout, mais qu'ils puissent simplement être des disciples de l'Évangile là où Dieu les a placés. Lors de notre dernier congrès qui s'est passé à Grenoble, il y avait un prédicateur que j'ai trouvé particulièrement inspiré, qui a posé une question qui m'a particulièrement mis mal à l'aise, que je vais vous poser du coup. Je n'attendrai pas de réponse de votre part. Toi qui es chrétien, quand fut la dernière fois que tu as annoncé l'Évangile ? 5 heures ? Il y a 5 heures ? Il y a 5 jours ? Il y a 5 semaines ? Il y a 5 mois, il y a 5 ans. Moi, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu d'entendre ça. Parce que je prêche tous les dimanches, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est dans ta vie, au quotidien. L'Évangile que tu incarnes, quand est-ce que c'était la dernière fois ? Que Jésus nous aide à saisir ce privilège que nous avons reçu à la Pentecôte de devenir des témoins de cet Évangile de la grâce. On arrive à un point qui m'a particulièrement intéressé. On revient sur le verset 8. « Comment se fit-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Dieu choisit de parler à ces hommes et ces femmes, non pas dans la langue qui était connue par tous ceux qui se rendaient à Jérusalem pour adorer Dieu, majoritairement peut-être le grec ou l'hébreu. Non, Dieu a choisi de leur parler au travers de la langue de leur cœur. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu ? Ça nous apprend déjà que Dieu connaît assez chacune de ces personnes individuellement pour connaître à la fois leur origine et leur langue maternelle. Dieu tient compte de l'arrière-plan et c'est intéressant de voir qu'en fait, il s'adapte à chacun. Bien que Dieu en lui-même ne change pas, la manière dont il parle à chacune des personnes qui est présentée ici se fait en quelque sorte d'une manière adaptée à celle-ci. Je crois que cela met en lumière l'amour que Dieu a pour ceux qu'il cherche. Tout comme Jésus est venu parmi nous pour nous témoigner l'Évangile, aujourd'hui cet Évangile vient s'adresser directement à chacun de nos cœurs, dans notre langue. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne mesure pas, de se rendre compte combien c'est extraordinaire de voir que le seul Dieu qui a créé tout l'univers accepte de s'adapter à chacun d'entre nous. Après tout, il aurait simplement pu dire et nous imposer « Vous voulez vous approcher de moi, apprenez ma langue. » Apprenez la langue de mon peuple, apprenez l'hébreu. Et dans ce cas-là, vous vous approchez de moi et on peut parler ensemble. Mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi de faire. Et si je précise cela, c'est pour marquer aussi très clairement la différence qu'on peut avoir entre le Dieu véritable, celui que révèle la Bible, et puis tous les faux dieux de ce monde, toutes les idoles. Par exemple, juste pour prendre l'exemple de l'islam, on considère que pour véritablement comprendre Allah, il faut comprendre sa langue, il faut comprendre l'arabe littéraire notamment. Pour être un bon disciple dans ce cas-là, il faut déjà bien connaître cette langue. Et alors après, on peut espérer avoir finalement une vie de piété qui soit à la hauteur. Et donc, d'un côté, on voit un Dieu accessible au travers d'une langue unique. Et puis de l'autre, on voit un Dieu qui se sait inaccessible alors qu'il choisit de parler toutes les langues. Le but ici n'est pas de mettre un point sur une autre religion ou autre chose, mais c'est simplement pour qu'on se rende compte du privilège que la Bible nous montre quand elle nous enseigne que Dieu a parlé ici à la langue, par la langue maternelle à toutes ces personnes. Il n'a pas mis un obstacle supplémentaire pour que nous puissions le rencontrer. Et c'est magistralement exposé par le miracle des langues à la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient mettre directement des paroles qui glorifient Dieu dans les langues de cœur de chaque auditeur. Qu'est-ce que cela doit changer ou peut changer pour nous ? Nous parlions tout à l'heure, juste avant, d'être des témoins remplis du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile. Je crois que cette section maintenant nous commande de le faire, mais en parlant au cœur de nos contemporains. La langue, quand cela est possible, mais c'est aussi et surtout comprendre, en fait, ce n'est pas à l'autre à qui j'ai parlé de Jésus de faire un effort pour comprendre ce que je lui dis. Ce n'est pas à lui de devoir se poser tout un tas de questions pour voir si, finalement, ça peut être pertinent pour sa propre vie. Je crois que la Bible nous montre ici plutôt quelque chose d'étonnant, c'est que tout comme Dieu connaît parfaitement le cœur ici de tous les auditeurs, nous sommes appelés, nous aussi, alors pas parfaitement du coup, mais à connaître le plus possible le cœur des personnes auxquelles nous devons ou nous voulons nous adresser. Je ne parle pas quand on le fait comme ça à une masse, à une foule. Là, on ne peut pas connaître le cœur de chacun. Mais quand je témoigne au quotidien aux personnes à qui je veux leur parler de Jésus, est-ce que je connais quelles sont leurs ambitions ? Est-ce que je connais quels sont leurs tiraillements ? Quelles sont leurs souffrances ? Quels sont leurs arrière-plans ? Et moi, mon job, finalement, en tant que disciple qui est rempli du Saint-Esprit, c'est « Ok, je sais que cette personne sait ce qu'elle vit. Comment cet évangile de grâce, sans jamais le travestir, comment est-ce que cet évangile de grâce, rejoint mon interlocuteur, celui à qui je veux parler, pour que cet évangile résonne dans sa vie ? Vous savez, il y a des personnes qui n'ont aucune conviction de péché dans ce monde. Il y a des personnes, elles font le péché et ça ne leur pose aucun problème. Mais par contre, elles vont avoir d'autres situations. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec le péché, mais qui par contre vont avoir peur de tout ce qui est un peu monde spirituel, etc. Bien sûr, on leur parlera du péché, mais on leur montrera aussi comment est-ce que Jésus-Christ est bien plus puissant, comment est-ce qu'il est bien plus fort pour justement ce qui les tiraille, ce qui leur fait peur aujourd'hui. Et tout cela va arriver à ce que l'Évangile dans sa globalité soit annoncé. Oui, Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché, mais il est venu nous libérer aussi de toutes nos peurs, qu'importe ce qu'elles peuvent être dans différentes sphères et dimensions de notre vie. Incarner l'Évangile de manière à ce qu'il puisse aussi parler au cœur. Mais attention, je le précise toujours, sans jamais travestir cet évangile pour qu'il soit plus acceptable. Non. Toujours le même évangile, mais adapté dans sa formulation pour qu'il réponde aussi à une question que la personne peut se poser. Dernier point, un signe d'opposition. Donc, tout ce que je viens de dire s'est passé, les auditeurs n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule « c'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Jusqu'ici, nous avons vu que l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte était un signe de confiance. Dieu a accompli sa promesse, nous pouvons lui faire confiance. C'est un signe de mission, Dieu nous a équipés de son esprit pour que nous ayons les armes nécessaires pour annoncer l'évangile. C'est un signe d'affection de Dieu, nous sommes appelés à manifester ce même amour envers les perdus. Et maintenant, c'est un signe d'opposition. En voyant Dieu agir de manière extraordinaire, en entendant Dieu parler par la bouche de ses disciples dans des langues de leur cœur, on aurait pu imaginer que naturellement, tous ceux qui étaient là, en train d'écouter et de voir ce qui se passe, convaincus, directement, mais c'est incroyable, il y a un miracle extraordinaire qui est en train de se passer, ça vient de « je vois Dieu agir, je sais que c'est Dieu qui agit, je me convertis et j'accepte finalement de conformer ma vie, notamment après avec la prédication de Pierre. » Mais non. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y en a un certain nombre qui sont plutôt attentifs, mais il y en a beaucoup ici qui, la première chose qu'ils disent ici, c'est « ils ont trop bu ». Ils ont trop bu. En gros, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent « ils ont trop bu » ? Ce n'est pas Dieu qui agit. C'est ça l'idée derrière. Ce n'est pas Dieu qui agit. Et on aurait tort de s'imaginer que c'est souvent différent. Les miracles n'ont pas un pouvoir de conversion qui est vraiment très puissant quand on regarde dans la parole de Dieu. Parce que, par exemple, vous avez cet homme, vous savez, qui était emprisonné, oui, parce qu'il était infesté d'une légion de démons. Tous les habitants de la ville, du village où il était, étaient horrifiés par la puissance de cet homme, par ce qu'il faisait. Ils avaient peur, ils l'avaient enchaîné même dans les cimetières. Puis Jésus arrive, il le libère. L'homme qui, jusqu'à présent, était toujours super violent et super calme, il était toujours tout nu, maintenant il est habillé. C'est quelqu'un qui est devenu saint d'esprit. Et alors que toutes ces personnes-là avaient peur de cet homme, maintenant ils le voient saint d'esprit, la première chose qu'ils disent à Jésus, c'est pas « Ok, parle-nous de ce que tu as fait, on veut te suivre ». Non, ils lui ont dit quoi ? Pars, pars d'ici, on ne veut pas de toi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ce matin ? Tout en étant pleinement rempli du Saint-Esprit, tout en ayant un amour sincère et véritable, et une véritable connaissance de ceux à qui nous voulons partager l'Évangile, il n'y a aucune garantie de résultat. Je crois que c'est important de le savoir, de se le rappeler, parce qu'à la fois ça nous rappelle à l'humilité, et ça nous libère aussi de la culpabilité. L'humilité de reconnaître que dans la conviction des cœurs, nous n'avons pas tout entre nos mains. Même si je prêche le meilleur message de ma vie, mon meilleur témoignage, je n'ai pas tout entre mes mains. Nous sommes ici totalement dépendants de la grâce de Dieu et de la manière dont il amène un cœur à la repentance. Et ça peut aussi nous déculpabiliser parce que certains se disent « Moi, je ne comprends pas, je témoigne tout le temps, mais les gens ne se convertissent pas. » Mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, si tu as témoigné sincèrement, c'est là ta part. Ta part, c'est ça, de témoigner sincèrement de ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Ton témoignage aura trois effets possibles. Faire avancer la personne dans sa réflexion en ce qui concerne Jésus, et là, tu ne verras rien. Peut-être que tu seras le dernier maillon d'une chaîne de témoignages qui aboutira à la conversion. Et là, tu te réjouiras. Ou peut-être que tu seras aussi le dernier maillon d'une chaîne d'un témoignage qui aboutira à une opposition. C'est aussi ce que la Bible nous montre. Et là, tu seras très probablement assez triste. Mais toi et moi, notre responsabilité, c'est juste d'être un des maillons dans cette chaîne de transmission de l'Évangile. Ce n'est pas à nous de définir si nous sommes le premier maillon, le milieu, le maillon du centre ou le dernier maillon. L'important, c'est simplement que nous sommes un de ces maillons. Après, c'est Dieu qui gère. Pour finir, retournons dans la galerie d'art. Parce qu'à la suite de la Pentecôte, on retrouve un dernier tableau. Ce tableau, c'est notre tableau. La terre que nous parcourons, remplie du Saint-Esprit, afin de témoigner l'amour de Dieu au cœur de chacun. Par le puissant évangile saint et unique de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour, cette grâce, cette possibilité du pardon des péchés est incarnée, proclamée sur toute la terre. C'est votre tableau, c'est aussi vous ce que vous faites ici à Clermont-Ferrand et dans la région, incarné, prêcher ce message de l'Évangile avec la puissance que le Saint-Esprit vous donne depuis que vous l'avez reçu, depuis que l'Église l'a reçu à la Pentecôte et depuis que nous l'avons reçu individuellement. C'est un tableau qui se dessine depuis maintenant plus de 2000 ans. Et est-ce que vous voyez le titre de ce tableau ? Quelqu'un peut me le dire ? Il n'y a pas de titre. On ne signe pas un tableau qui n'est pas encore fini. Le jour où ce tableau sera fini, c'est le jour où Christ reviendra, où il prendra avec lui son peuple et où nous serons avec lui pour l'éternité et toutes les souffrances, toute la maladie, toute l'incrédulité, tous les pleurs, tous les deuils, toutes les larmes, tout cela aura été détruit, aura été simplement mis au rebut par notre Seigneur. Mais tant que cela n'est pas encore fait, nous continuons de faire ce tableau. Et je finis, et ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas donner à Saint-Étienne. Bien souvent, lorsque je prêche, je ne suis pas au niveau de ce que je prêche, d'accord ? Je prêche la Bible, je ne prêche pas ma vie. Et bien souvent, quand je suis un peu éloigné de ce que je prêche, le Seigneur permet que dans la semaine qui suit, ou dans les deux semaines après, je sois mis un peu challengé par mon propre message. Une semaine après l'écriture de ce message, j'ai écrit un autre message et en général, je finis mon message le vendredi après-midi. Et puis là, il s'est trouvé que, enfin plutôt le jeudi, et là, il s'est trouvé que en début de journée, j'avais fini mon message bien plus rapidement que possible. Et donc, du coup, j'avais une après-midi de libre. Je sors du café dans lequel je travaille. Et puis là, je prie et je dis au Seigneur, Seigneur, ok, je suis disponible. Là, j'ai vraiment envie de me rendre disponible pour témoigner de l'évangile à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui aurait besoin d'entendre parler de Dieu. Je dis Amen, et à ce moment-là, je vois deux personnes qui arrivent avec leur chariot devant moi, les témoins de Jéhovah qui sont là, tous les deux. Et là, je dis au Seigneur, tout le monde, mais pas eux. Donc du coup, je ne vais pas les voir, je ne vais pas du tout les voir. Et ce que je fais, c'est que je fais tout le tour de la place pour les éviter, en fait. Et puis là, le Seigneur... Enfin, il y a une discussion interne avec le Seigneur et le Seigneur me pose en quelque sorte cette question, me dit, mais du coup, pourquoi pas eux? De quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te bloque maintenant? Puis du coup, dans ce moment-là, je me suis simplement rendu compte que je me suis dit, mais en fait, le diable, il nous fait croire aussi des choses. Et puis là, je suis en train de me dire, mais est-ce que j'ai les arguments? Est-ce que j'ai finalement la connaissance nécessaire pour pouvoir mettre en doute aussi ici par rapport à ce qu'ils vont partager? Et puis en fait, quand j'explique ça au Seigneur, je me rends compte qu'il m'arrête. Et que, alors quand je dis « il me dit », ce n'est pas « je l'entends directement », c'est une sensation, une compréhension intérieure, qu'il me dit « mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé ». Je ne t'ai pas demandé de les convaincre avec tes arguments, mais de parler à leur cœur. Du coup, je me suis approché d'eux derrière, discrètement. Je me suis mis contre un banc, je les ai regardés, comme ça, et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, ok, je veux leur parler, mais je veux que tu me donnes de l'amour pour eux, pour que je parle à leur cœur, et pas juste pour rentrer dans un débat infini sur des choses qui sont extrêmement importantes, mais qui ne porteront pas de fruit. C'est ce que j'ai fait, j'ai été les voir, et on a passé un bon moment. Quand je dis un bon moment, c'est qu'on a parlé évidemment de l'évangile, mais en profondeur, et j'ai vu une grâce de Dieu qui a ouvert deux semaines après, sans qu'il y ait de lien, d'autres témoins de Jéhovah. Eux sont arrivés chez nous, du coup. Et là, on a pu manger ensemble, on a pu aller bien plus loin dans la discussion et dans l'approfondissement et dans l'amour pour eux, pour que Christ puisse les toucher dans leur folie d'interprétation. Simplement, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, on est bloqué juste parce qu'on se dit « j'ai pas les arguments ». J'ai pas la connaissance pour, j'ai pas fait la fac de théo pour, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas encore suivi tout le cursus que mon église donne pour l'évangile. Ok, tout ça c'est excellent. Mais ce que Dieu nous demande ici, c'est tu as déjà le Saint-Esprit puisque tu crois en Christ, alors tu es déjà équipé pour dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, c'est simplement ce que je veux vous laisser ici et je nous invite à la prière pour clôturer. Père, nous sommes déjà reconnaissants parce que tu as montré ta fidélité au travers des siècles. Et aujourd'hui, on est simplement à la suite d'une longue transmission qui s'est opérée depuis maintenant bien longtemps. Et nous voulons reconnaître que tu continueras d'être fidèle envers ton Église, envers ton peuple, et cela jusque dans l'éternité. Merci pour ton esprit qui est dans chacun de ceux qui se reconnaissent comme appartenant à Jésus-Christ, qui ont placé leur foi, leur confiance en lui, qui ont reconnu que eux, malgré le fait qu'ils soient pécheurs, ils ont trouvé en lui la solution, le pardon, la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Et Père, ce message que nous portons maintenant, nous te prions simplement pour que, évidemment, nous le prêchions en dehors d'ici, mais que nous l'incarnions dans notre vie, de manière à ce que, qu'importe le lieu où tu nous places, nous soyons tes témoins. Aide-nous à ne pas tomber simplement dans l'écueil de se dire qu'il faut juste donner un verset, qu'il faut juste dire « Jésus t'aime », mais que nous puissions, comme tu l'as fait pour nous, comme tu l'as fait dans l'histoire, faire résonner l'évangile au fond des cœurs, là où véritablement tu choisis de toucher et de manifester ta grâce. Nous comptons sur toi. L'église de Clermont aussi, Seigneur, compte sur toi. Nos églises qui sont représentées ici pour la région comptent sur toi. Et nous voulons vraiment être dans l'assurance que ce que tu as fait dans le passé, tu vas continuer de le faire pour que Jésus-Christ soit glorifié tout autour du monde. En son nom. Amen.